Vous écoutez
RMC.
Il est 8h sur RMC. Excellent 1er mai.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le stress commence à monter ce matin chez les supporters du PSG parce que c'est une matinée de demi-finale de Ligue des Champions. Paris à Dortmund ce soir 21h. Jean Rességuet nous attend sur place et vous l'entendrez, c'est pas l'union sacrée chez les supporters français. 1er mai politique à un mois et demi des élections européennes mythiques du RN cet après-midi à Perpignan.
Et notez bien que mon invitée à 8h30, c'est Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Elle sera mon invitée juste après le journal de 8h30. Elle défilera aujourd'hui à Paris pour le 1er mai. Contrairement à l'année dernière, les syndicats défilent en ordre dispersé. Elle sera donc sur RMC et RMC Story à 8h30.
Et nouveauté du 1er mai à Amiens, un arrêté anti-mendicité. Les sans-abri n'ont plus le droit de faire la manche.
La stat veut tout dire ce matin. Paris n'a jamais gagné à Dortmund.
3 matchs du PSG là-bas et jamais les Parisiens n'ont gagné. Voilà l'enjeu de la demi-finale aller de Ligue des Champions ce soir à 21h sur RMC. Vous y êtes déjà en direct ce matin. Jean Rességuet, vous allez commenter Bonjour. Le match ce soir sur RMC et vous nous dites qu'il y a des raisons d'y croire, hein, Jean, car tous les feux sont au vert.
Oui, même l'entraîneur de Dortmund le dit, Paris est à son pic. Son homologue du PSG, Luis Enrique, avait dit « Nous serons prêts en février ». Il faut reconnaître qu'il ne s'était pas trompé. Le club de la capitale s'apprête à jouer sa troisième finale, demi-finale de Ligue des Champions dans une forme resplendissante. Pas de blessés, juste une incertitude pour Nuno Mendes à gauche de la défense. Une équipe solide en déplacement depuis les huitièmes de finale. Vainqueur à San Sébastien, à Barcelone. Cette fois-ci, première manche se joue en Allemagne, à Dortmund. Vous l'avez dit, où Paris n'a jamais gagné. Le PSG favori, Luis Enrique, qui refuse cette étiquette comme il refuse toute forme de pression, mais il sait qu'il peut compter sur un groupe bien concentré sur les objectifs qu'ils se sont fixés, dont cette finale le 1er juin à Londres, des individualités au service du collectif. Cette phrase revient souvent dans la bouche de l'entraîneur espagnol pour souligner qu'ils sont 10 joueurs à avoir marqué au moins un but cette saison en Ligue des Champions. Mbappé en a mis 8, Vitinha et Dembélé se sont fait remarquer 2 fois face à Barcelone. Ce soir, ce sera peut-être un autre. C'est une force pour le PSG de Luis Enrique.
Oui, soirée spéciale à 18h sur RMC. À partir de 18h, c'est la semaine européenne en fait qui continue. Il y avait le Bayern contre le Real hier soir, match nul de partout dans l'autre demi-finale. Il y a donc Paris ce soir et il y aura Marseille demain en Europa League. Paris, Marseille, vous me voyez venir. Les supporters marseillais, ils seront pour qui ce soir, Paris ou Dortmund? Question posée par Martin Bourdin.
Même si certains préfèrent rester prudents,
faut pas être trop chauvin.
Dans les rues de Marseille, la fierté, la passion pour l'OM est souvent trop forte. Impossible, évidemment, de pousser derrière le PSG ce soir.
Jamais de la vie que Marseille, non, va gagner la Ligue Europa et ils vont perdre.
Marseille, c'est impossible de supporter l'ennemi. Impossible, frère. Je suis de Marseille, c'est impossible.
Moi, je veux qu'ils perdent.
Quand les Parisiens, eux, sont un peu plus nuancés.
On a la classe parisienne, c'est normal.
La rivalité sportive entre le PSG et l'OM, pour moi, elle est un peu fictive, étant donné que le PSG les surclasse complètement.
J'aurais préféré soutenir Saint-Etienne, mais
ils représentent la France tout de même.
Enfin, soutenir l'OM, pourquoi pas, mais Samy a quand même une condition.
Faut que Paris gagne. Paris gagnera et on supportera Marseille parce qu'on est bons joueurs. Mais si Paris perd, là, on va pas supporter Marseille. Hein.
Parce que la priorité, c'est évidemment que le PSG aille en finale de la Ligue des Champions. Alors, les Parisiens qui veulent voir l'OM gagner demain.
Non, moi, je peux pas comprendre.
Ça agace Augustin, 17 ans, maillot de Warren Zaïre-Emery sur le dos.
Ça m'enlèverait un peu cette excitation si Marseille gagne la Ligue Europa.
Car même si cette rivalité est historique, ce sont surtout les plus jeunes, Marseillais ou Parisiens, qui veulent voir leur meilleur ennemi s'incliner cette semaine.
Il est 8h04 ce matin sur RMC, c'est la fête du travail, journée fériée. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues dans la rue aujourd'hui pour les traditionnels défilés du 1er mai. Nettement moins que l'année dernière dans le contexte à l'époque de la mobilisation contre la réforme des retraites. Un 1er mai politique aussi, parce que c'est aujourd'hui que le RN, en tête des sondages, va véritablement lancer sa campagne des élections européennes. Pour la deuxième année de suite, hors de Paris, meeting à Perpignan cet après-midi. Vous y êtes déjà en direct pour RMC, Hélène Terzian. Mais alors, avant ça, avant le meeting, il y aura le comité d'accueil.
Effectivement, quand un rendez-vous est donné dès 10h30 ce matin, les syndicats presque tous unis se réunissent à quelques encablures du Palais des Congrès de Perpignan, lieu du meeting du RN. Le mot d'ordre, il est clair, Il refuse que le Rassemblement national s'approprie cette journée de défense des travailleurs. C'est une provocation, selon eux, de les voir se réunir à Perpignan. Perpignan, ville de Louis Alliot, bastion du RN. C'est loin d'être un choix anodin pour le parti à la flamme qui attend aujourd'hui 3000 personnes pour écouter Jordan Bardella et Marine Le Pen. Objectif, faire de ce meeting le compte à rebours d'une victoire annoncée aux élections européennes à un peu plus d'un mois du scrutin. Jordan Bardella caracole en tête dans les sondages, donné à plus de 30%, loin devant la candidate de la majorité. Il compte bien capitaliser sur cette vague de popularité pour annoncer aujourd'hui les 35 candidats qui figureront sur sa liste et faire de ce meeting un tremplin avant le 9 juin, jour de l'élection.
Pas de jour férié hein, quand on est en campagne. Lancé hier, Gabriel Attal a ses troupes talonnées hein, dans les sondages par la liste socialiste. Tiens, vous vous souvenez de la formule du Premier ministre en début d'année à l'Assemblée nationale ?
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Gabriel Attal promettait de durcir les sanctions contre les jeunes délinquants, des sanctions qui commencent à partir de 16 ans aujourd'hui. Eh bien, c'est chose faite, une circulaire en ce sens vient d'être envoyée au procureur Sébastien Krebs.
Oui, parce qu'aujourd'hui, en dessous de 16 ans, un mineur ne peut pas être condamné à des travaux d'intérêt général. Cette circulaire crée donc cette mesure d'intérêt éducatif pour s'assurer, écrit le ministre de la Justice, que les mineurs prennent conscience de leurs actes. Une mesure destinée aux 13-16 ans, sans antécédent judiciaire et qui serait auteur de dégradation, par exemple. Trois étapes. D'abord, la réparation, le fameux « tu salis, tu nettoies », une action sur 20 heures maximum, avec la commune ou avec une association. Ensuite, une forme de stage de citoyenneté sur 4 heures autour des droits et des devoirs, et enfin un suivi pédagogique en lien avec l'établissement scolaire. Les parents devront être impliqués, précise le texte. L'objectif, explique le gouvernement, c'est d'agir vite, dans les 3 mois, pour tenter de stopper la délinquance à la racine.
Il est 8h07, ça fait donc 7 minutes qu'un arrêté anti-mendicité est entré en vigueur à Amiens, où les sans-abri n'ont plus le droit de faire la manche, réclamer de l'argent aux passants de 8h jusqu'à 20h dans les rues du centre-ville. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois d'août, sous peine d'une amende. C'est ce que nous dit Nicolas Ropert à Amiens pour RMC.
Dans les rues du centre-ville, quelques SDF font la manche assis au milieu des passants.
De se faire chasser comme ça alors qu'on essaye de manger, c'est horrible quoi.
Christophe, à la rue depuis une dizaine d'années, trouve cet arrêté scandaleux.
C'est honteux parce qu'on ne règle pas le problème dans le fond. À partir du moment où on met les gens encore plus dans la misère, qui ne le sont.
Le nombre de SDF, mais aussi leur comportement a changé, constate Gaël Mordac, représentant des commerçants d'Amiens. Cet arrêté est donc nécessaire.
Aujourd'hui, on est face à des gens qui sont avec un sentiment agressif, et puis même certains, on en a certains qui rentrent même dans les commerces et qui viennent même faire cette demande dans les commerces. On souhaite retrouver un centre-ville paisible.
Les ONG d'aide aux sans-abri sont mobilisées contre cette décision.
D'ailleurs, j'en ai vu un, il était tout seul.
Gaël, secrétaire de l'association L'Espoir pour nos amis de la rue, y voit une véritable chasse aux pauvres.
Je trouve ça un peu aberrant pour ces gens. Où vont-ils aller ? Que vont-ils faire ? C'est une question que tout le monde se pose. Et mettre une amende, ok, mais ils n'ont pas de sous, ça va leur changer quoi ? Rien du tout.
Les associations dénoncent aussi la volonté de la municipalité de nettoyer la ville avant le passage de la flamme olympique en juillet prochain.
Une des informations de la nuit, c'est l'évacuation de l'université Columbia à New York aux États-Unis. La police y est entrée dans la nuit pour déloger les étudiants pro-palestiniens qui occupaient le campus depuis 2 semaines maintenant. Ce rapport choc, tiens, qui a été publié dans la nuit aux États-Unis, ce rapport parlementaire sur le changement climatique, dans lequel on apprend, Romaouk, que les géants pétroliers savaient depuis au moins les années 60 que les énergies fossiles allaient entraîner un réchauffement de la planète. Ils savaient. Mais ils n'ont rien fait.
Les rapports qui visent ce qu'on appelle aux États-Unis les Big Oil, ce sont les 6 géants du pétrole et organismes qui sont au cœur de cette enquête, parmi eux ExxonMobil ou encore Shell. Et il en ressort qu'après avoir nié le changement climatique tout en connaissant son existence, le secteur a finalement changé de posture, acculé par les faits scientifiques, mais a mis en place un double langage, une campagne de tromperie, dit le rapport, en affirmant publiquement soutenir l'action pour le climat tout en se démenant en coulisses pour l'éviter. Pendant plus d'un demi-siècle, écrivent les parlementaires, ils ont tout fait pour que le monde entier reste dépendant de leurs produits polluants. Il est plus que temps de prendre des actions pour remédier aux dégâts qu'ils ont causés.
Tiens, et puis on a appris ce matin la mort du célèbre romancier américain Paul Auster, emporté par un cancer. Paul Auster, il avait 77 ans.
Et j'ai adoré Moon Palace, que je vous recommande à tous. Ça faisait très longtemps, mais j'y repensais ce matin. C'était un très très grand écrivain. Merci Quentin pour ce journal. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
À suivre, le foot bien sûr et deux clubs en Coupe d'Europe. Le PSG ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Marseille qui reçoit l'Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa. On en parle dans un instant avec le parti pris. C'est Daniel Riolo qui a mis son réveil et qui est avec nous dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h13, excellent 1er mai, très belle journée à tous.
Le parti pris.
Avec Daniel Riolo qui a mis le réveil un peu plus tôt que d'habitude. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin sur RMC. Deux clubs, deux ennemis jurés du foot. Hein, et on l'a encore entendu ce matin avec quelques auditeurs qui avaient quand même beaucoup de mal à envisager de soutenir l'un ou l'autre, même si Charles a été... plutôt bon joueur pour l'instant.
Mais oui, fair
pour
play.
L'instant, il sera pour Marseille aussi.
Hypocrite aussi peut-être.
Peut-être hypocrite. On va tenter de dévoiler le mystère ce matin, Daniel. Donc le PSG c'est ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund et puis Marseille c'est demain demi-finale de la Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Chacun pour son club, personne ne va soutenir en vrai au-delà de l'hypocrisie de façade le club de l'autre.
Je pensais pas que ça allait être une vraie question.
C'est une vraie question parce qu'elle se pose depuis ce matin avec les auditeurs.
Que c'était uniquement pour Charles. Je crois que chacun va faire sa vie de son côté. Les Marseillais, je peux vous le garantir, vous n'en trouverez pas un pour soutenir le PSG. Les Marseillais veulent rester la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions. Ils veulent surtout pas que le PSG ne fasse la même chose. Je dirais qu'il y a peut-être un peu plus d'indifférence du côté des Parisiens qui sont dans leur Ligue des Champions et savoir si le rival historique va gagner la petite Coupe d'Europe, ça va peut-être les importer un peu moins. Mais honnêtement, non, vraiment...
C'est chacun dans son coin.
Moi, j'ai toujours du mal à comprendre qu'on pose à chaque fois cette question. Je vous promets que si vous allez en Angleterre, vous allez en Italie, je veux juste vous prendre... Allez, un exemple. En Angleterre, vous demandez à un gars de Manchester United si ça va lui faire plaisir que Liverpool gagne, mais même pas la Coupe d'Europe, mais la Coupe du quartier, n'importe quel match, mais il vous dira non. C'est l'histoire du football, on ne veut pas. C'est vieille querelle de clochers qui existe dans beaucoup de sports. On veut pas que l'équipe rivale puisse fêter quoi que ce soit.
On en parlera tout à l'heure avec Philippe parce qu'il nous a appelé au 32-16. Il nous attend, mais je voudrais quand même qu'on parle un peu du match qui nous attend. PSG ce soir face à Dortmund. Est-ce que l'équipe peut effectivement aller chercher une victoire? On sait qu'à Dortmund, ils n'ont jamais gagné.
Alors oui, c'est vrai. Alors ce détail-là est vrai. Maintenant, il n'y a pas obligation de gagner ce soir pour se qualifier dans une semaine, ramener un bon résultat. Je crois que il y a énormément de résultats qui mettront les Parisiens en confiance. Un match nul, évidemment, une victoire. Mais j'ai envie de vous dire que même si le PSG devait perdre par un but d'écart ce soir, je crois que la confiance qui habite le club en ce moment resterait au beau fixe en vue du match retour. Ce PSG cette année, c'est construit une force collective qui semble devoir porter à peu près tout le monde dans cette équipe et même les supporters. C'est très rare, vous savez, les deux dernières années, elles ont été dures pour les supporters du PSG où on avait le sentiment que tout ne reposait que sur une ou deux stars et de toute
et
façon
qu'il avait pas d'équipe, quoi.
Et qu'il n'y avait pas d'équipe et que de toute façon aller au-delà des huitièmes de finale c'était devenu un exploit parce qu'il y avait cette force de l'habitude de prendre le coup derrière la tête au moment des huitièmes, que il y aurait une décision d'arbitre, qu'il y aurait un mental défaillant, qu'il y aurait toujours quelque chose qui n'irait pas. Cette année, depuis le début de cette aventure, ça n'a pas été toujours facile dans la phase de poule. Hein. Il faut rappeler quand même que la qualification, elle est peut-être due à un pénalty généreux à la dernière minute contre Newcastle au Parc des Princes, qu'il a fallu un match nul qui arrangeait tout le monde à Dortmund, justement dans le dernier match de poule, où les deux équipes se sont regardées dans les 10 dernières minutes sans quasiment jouer, parce que le 1 partout allait bien à tout le monde. C'était pas très glorieux à ce moment-là. Néanmoins, derrière... il y a eu cette qualification contre le Barça. Il y a eu, je le répète parce que c'est vraiment très important, cette force collective qui s'est mise en œuvre, qui a été construite par tout le monde dans ce club.
Mais juste si on est clinique pour ceux qui n'ont pas suivi la Bundesliga, qui connaissent pas par cœur Dortmund.
Les forces en présence.
Le PSG est favori, non? Si tout le monde fait bien son boulot, l'entraîneur, les joueurs, ça passe.
Oui, mais si tu as bien suivi la Bundesliga comme tu l'as dit, tu retiendras ces mots des journalistes allemands. Qui sont de dire que ce Borussia Dortmund, on ne sait jamais quel match il va nous proposer. Ce qu'il a fait, par exemple, notamment match retour contre l'Atlético Madrid, personne ne s'y attendait. Une énorme prestation, un pressing sur 90 minutes, ils les ont étouffés. Et franchement, faire ça à l'Atlético Madrid, c'est très rare. Alors, Oui, j'ai envie, comme toi, de me dire que il y a une sorte d'idée que les planètes sont alignées, que jouer Dortmund en demi-finale, c'est comme un cadeau, parce que d'habitude en demi-finale on joue un Cador, on joue Manchester City. Je te rappellerai quand même que parfois le coup de bol, ça peut un peu exister, parce qu'en 2020, l'année Covid, oui, ce fameux Final 8, le PSG avait joué le RB Leipzig,
c'est vrai,
qui n'était pas un monstre européen, oui, mais... et que ça s'était très bien passé, mais sur un match. Là, il y a l'aller-retour. Dortmund, effectivement, ça n'est pas un monstre européen. Je ne le risquerai pas à dire favori. J'ai juste envie de dire que c'est plutôt un tirage sympa et que moi aussi, comme toi...
C'est très politique, hein, pas favori, mais tirage sympa.
Il y a un peu d'hypocrisie chez vous, Charles, et il y a un peu de politique.
Mais non, mais
moi, j'ose dire le mot favori.
Mais non, mais Charles, après tout, est-ce que le PSG est un monstre européen?
Non, pas encore.
Bon, mais alors, voilà.
Mais un favori ce soir. Il faut assumer aussi ce statut, arriver avec cette confiance de favori.
Moi, je ne sais pas ce qui te permet de dire ça.
Philippe et Stéphane sont avec nous tous les deux. Bonjour Philippe.
Bonjour Apolline.
Alors
bonjour
Philippe,
Daniel,
c'est le supporter de l'OM à Brive-la-Gaillarde. Stéphane, pour le coup, supporter du PSG. Je vais commencer avec vous. Stéphane, vous diriez favori ou pas favori? Vous êtes plutôt Team Charles ou...
De toute façon, vous savez que ça apporte pas grand chose d'être favori. Ça apporte pas grand chose.
Oui, bah,
pas bon. Non, moi, en plus, je connaissais bien Charles à l'époque. On s'est déjà vu plusieurs fois en tribune. Et Team PSG, bien entendu. Team Paris à fond, à 100%. Et surtout, je rêve derrière de voir une finale avec le Real pour que Kiki reste à Paris, quoi.
Ah, je suis pas sûr. Vous pensez que ça peut jouer, Daniel?
Ah non, ça jouera absolument pas. Au contraire, moi, je pense que si vraiment le storytelling doit être complètement dingue jusqu'au bout cette année, j'ai tellement entendu cette année depuis le tirage au sort, les planètes, toutes les choses irrationnelles, les planètes sont alignées auxquelles on ne doit pas croire en sport normalement, que donc la finale contre le Real, après le départ pour Madrid, mais je brille pendant la finale, je suis le héros de la finale pour le PSG, puis je m'en vais en pleurant vers mon nouveau club. Oui, bah évidemment,
comme un prince.
Tout le monde la veut, cette histoire. Tout le monde veut cette histoire.
Stéphane, cela dit, vous soutenez le PSG, mais vous allez faire mentir un peu Daniel, parce que s'il faut soutenir à un moment Marseille, vous soutenez Marseille.
Mais complètement, et j'en suis la preuve vivante. Et pour vous dire, je suis même à l'époque un ancien ultra parisien, donc pour vous dire à quel point. Et pourtant, au match de quart de finale retour au Stade Vélodrome, et ben j'y étais. J'y étais parce que derrière, c'est important de soutenir les clubs français, peu importe la rivalité. Quand c'est en Ligue 1, ça n'a rien à voir. Là, du coup, ce sont mes ennemis jurés. Donc
PSG d'abord, mais foot français après.
Mais bien
après.
Sûr, il faut.
C'est beau.
Mais c'est vraiment un cas unique. J'ai rarement entendu
ce genre de choses. J'ai payé ma place. Je ne l'ai pas eu gratuitement en plus, hein, Marseille, pour vous dire.
Il y a été, quoi. Daniel trouve que vous méritez la sainteté. Honnêtement, moi, je pense que vous pouvez être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié à Rome. C'est avec nous. Il y a aussi Philippe qui, lui, est supporter de l'OM. Philippe, je suis pas sûr que ça marche dans votre sens, vous.
Non, ça marche pas du tout. Je vous confirme. Non, moi je peux pas.
Non,
clairement.
Non, impossible de supporter le PSG ce soir. Est-ce qu'au minimum vous restez neutre?
Non. Alors neutre, pas complètement, non. Après, non. En plus, alors, pour tout vous dire, dans les cinq clubs européens, je suis en Allemagne, je supporte Dortmund. En Espagne, je supporte le Barça. En Italie, c'est la Juve. Et en Angleterre, c'est Arsenal. Donc voilà, j'ai des équipes un peu partout en Europe. Donc là, je serais plutôt Dortmund. Je peux pas supporter le PSG. Après, c'est un club que j'aime pas. Donc, quel que soit contre qui joue, que ce soit en Ligue 1, en Coupe d'Europe ou quoi.
On a Myriam tout à l'heure qui nous a appelé de Drôme, qui a dit non, mais de toute façon, ils sont moches. Ça, c'était vraiment l'argument ultime. Les maillots, hein, bien sûr, mais enfin, c'est une équipe, c'est moche. C'était le bout de l'argument. Philippe, comment vous le vivez, donc, le match de demain? Comment vous l'anticipez?
Demain, je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'ils sont fatigués, les Marseillais. Mais après, je vois qu'ils ont quand même des ressources morales. Quand je vois la semaine dernière ce qu'ils ont donné pour se qualifier, c'est quand même beau. Et j'espère qu'ils vont mettre les mêmes ingrédients demain pour faire la différence, parce que je pense que ça sera important de faire la différence au match aller. Parce que l'Atalanta, c'est quand même solide. Ça fait beaucoup de pressing physiquement. Ils sont impactants. Et je pense que c'est vraiment. Enfin, il faut faire un gros match demain. Et il faut bien gagner demain pour essayer de se qualifier en finale.
Daniel, est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont fatigués, d'ailleurs, les Marseillais?
Oui, mais ça fait plusieurs semaines qu'à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain, on a l'impression qu'à la fin, ils vont aux urgences tellement ils sont cuits. J'ai les images de Veretout contre Benfica où il tenait carrément plus debout. Et trois jours après, il était encore là, il jouait. Et cette impression-là fait qu'à chaque fois, on les voit perdants dans quasi tous les matchs qu'ils démarrent depuis un mois à peu près. Entre-temps, ils ont quand même réussi l'exploit d'éliminer Benfica parce que Benfica est une très bonne équipe européenne. Et l'OM s'en est sorti. Le dernier match de championnat, ils battent Lens. Avec toujours cette impression de jouer à l'arraché, un but dans les dernières minutes. Donc oui, encore une fois, moi je vais vous dire qu'il me semble complètement cuit, avec très peu de possibilités sur le banc pour remplacer les bons joueurs qu'il y a dans cette équipe-là. Contre l'Atalanta, qui en plus met un impact physique largement au-dessus de la moyenne. Daniel. Je ne suis pas optimiste pour l'OM, mais je ne l'étais pas contre Benfica. Donc,
mais raison de plus pour les supporter demain soir, Daniel.
Oui, Charles, je vous laisse absolument ce privilège.
On n'y arrivera pas. Merci Philippe, Stéphane et Daniel Riolo, bien sûr. On vous retrouve ce soir. Ce soir, Dortmund-PSG, soirée spéciale sur RMC. L'after jusqu'à minuit, suivi de la libre antenne. Demi-finale à suivre également en télé sur RMC Sport 1. 8h24, c'est l'heure d'un
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et c'est le moment de retrouver les meilleurs moments d'Arnaud Demanche avec ce jour-là. Arnaud qui revient sur l'histoire incroyable du grêlé. C'est un tueur en série qui avait participé à un jeu télévisé en pleine cavale.
Le gars était caché à la télé. Alors, c'est pas le seul, hein. Gérard Miller aussi était caché sur les plateaux de France Télé pendant 25 ans, PPDA, tout ça. Si ça se trouve, le père Fouras, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, sous un masque de vieux. Ça fait 20 ans qu'il est caché à la télé, il fait tous les jeux. Il y a Nagui qui va le recevoir à N'oubliez pas les paroles. Et on est avec Xavier qui va nous chanter Outé, papa, outé, outé, papa, outé. Moi, je serais d'ailleurs assez pour qu'on revisionne tous les vieux épisodes de Questions pour un champion.
Mais bien
parce
sûr.
Il y en a quelques-uns là-dedans qui ressemblaient pas mal à des tueurs en série. Vous savez, les gars avec des grosses lunettes bizarres et 8 cheveux longs rabattus comme ça, où ils lâchaient la main pour plaquer les cheveux sur un crâne chaud, avec des chemisettes trop grandes. Et les gars, ils s'y connaissaient beaucoup trop dans des domaines trop spécifiques. Alors Julien, je vais choisir comme thème les dissolvants dans l'histoire contemporaine. Je trouve ça chelou. Il y a M6 qui relance le juste prix. Là. D'ailleurs, il y en a un qui va se pointer. Les sacs poubelles, 3,26 €. Une pelle, 29,95 €. Une caravane insonorisée, 18 500 €. Faut qu'on revisionne tous les vieux épisodes des Amours. Il doit y en avoir un avec Michel Fourniret et Monique Olivier. Ouais. Présenté par Jean-Luc Reichmann. Et on est avec Michel et Monique. Monique, Michel connaît-il? Top! Votre couleur préférée?
Le jaune!
La meilleure méthode pour faire disparaître un corps?
La chauve-vive!
Votre signe astrologique?
Capricorne!
Où est la petite Sophie?
Sous le cerisier du jardin!
Alors, le grêlé était activement recherché et il passe à la télé. Les flics le recherchaient depuis 35 ans pour lui poser des questions. Et lui, il préférait répondre à des questions, mais du genre, quelle est la femelle du crapaud? Qui a chanté Coup de folie? Thierry Pastor. On va aller fouiller dans le jardin de Manu le Chip.
Ah, c'est
louche de savoir.
Manu, c'est louche.
C'est louche, c'est louche.
Arnaud, Marlène Schiappa va sortir un livre de littérature érotique à la Fifty Shades of Grey. Et l'héroïne sera une ministre.
Oui, coïncidence. Alors, vous vous souvenez de Fifty Shades of Grey? Fifty Shades of Grey, c'était un peu la démocratisation du sadomasochisme. Ah oui, j'aime souffrir et tout. Mais on sait qu'elle doit bien aimer ça. Pour se taper pendant 6 ans des réunions avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, faut aimer souffrir. Alors, c'est pas la première personnalité politique à se lancer dans l'érotisme. On a eu Bruno Le Maire, on a eu Alain Juppé. Et comme c'est pas la première fois qu'un politique se lance là-dedans, on va faire un petit quiz. C'est un quiz.
Allez, les buzzers.
Ce livre érotique a-t-il été écrit par une personnalité politique? A gagné une nuit avec Lionel Jospin. Attention.
Je suis pas sûr que je joue finalement. Moi j'y vais. Hein.
Top. Ouais, c'est parti. La princesse et le président.
Oui.
Giscard.
SOS Désir. Non. Oui, Harlem Désir.
Non.
Mais c'était pas érotique. Mais c'est un vrai livre.
C'est pas érotique.
Je vais te fouetter, petite catin, par Rachida Dati.
Mais c'est peut-être c'est
en cours d'écriture.
Il va sortir.
Le premier sexe.
Ah, vrai.
Vrai, par Éric Zemmour. Passion.
Oui.
Par Nicolas Sarkozy.
Oui,
oui. 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois par Édouard Balladur. Mais le livre a vraiment été écrit par une personnalité politique.
Ah.
Marlène Schiappa,
ah.
évidemment.
Ah, c'est le...
Deux Français sur trois.
Ah bah oui.
Oui,
oui.
C'est Giscard.
C'était érotique ça
non. Plus ou moins. Pénélope Salope par François Fillon.
Non, Arnaud.
Ah bah il aurait pu. À tout cœur, un projet de plaisir par Gilles de Robien.
Ah oui.
Non,
ah,
c'est faux.
Non,
c'était à tout cœur, un projet pour Amiens. C'était pas loin, mais c'est pas pareil. Une histoire sentimentale
vrai.
Par François Barba.
Bah, oui.
C'est vrai.
Oui.
Emmanuel par Brigitte.
Bah. Ah,
non.
Mais ça aurait
vrai, mais faux.
En lisant L'avenir dans mes boules par Michel Sapin.
Ah. Je ne répondrai pas à cette question.
Oh,
Joker.
Oh, je le veux, celui-là.
Oh, je le veux. Ça m'étonne pas, tiens. Dès qu'il y a un économiste un peu coquin. Sexe, mensonge et banlieue chaude.
Oui, Marlène
oui,
Schiappa.
Marlène Schiappa, exactement.
Ah, ouais. Exceptionnel. Hein.
Prenez-moi, oh oui, prenez-moi, par Manuel Valls.
C'était le meilleur d'Arnaud Demanche. Dans un instant, la météo et mon invité Sophie Binet. Mais avant cela, tiens, il y a Manu qui revient en plateau. Ben Manu,
je vous l'avais promis, le muguet du 1er mai.
Ah, le muguet. Mais vous avez été, vous êtes sorti là pour aller
cueillir directement.
Ah, vous l'avez cueilli.
Hier, il était encore dans les bois de Sologne.
Oh. Oh là là, ça sent bon, c'est merveilleux.
Oh là là.
Incroyable.
Merveilleux. Promis à 6h et. Oh, c'est
magnifique.
Trop sympa.
Ah ouais.
Merci Manu. Merci Manu le Chypre.
Bonne fête
voilà.
du 1er mai et bonne fête du travail à tous.
Bonne fête du travail.
Et on compte sur toi pour en offrir un à Sophie Binet.
Mais voilà. Tu crois qu'il est pour qui celui-là?
Ah, il en reste un, c'est Sophie Binet de la CGT qui sera donc mon invitée dans un instant. Mais tout de suite, la météo. 8h30 et il pleut, Géraldine.
Et il va pleuvoir toute la journée pour ce 1er mai. Des pluies parfois soutenues qui remontent de Méditerranée. Alors ce sera un peu plus calme vers l'Atlantique quand même cet après-midi. En revanche, sur le nord-est, là, on va avoir de gros orages, de la grêle, de gros cumuls de pluie, des vents violents. Résultat, on a 14 départements qui sont en vigilance orange. Ça va commencer sur la Marne, Lyon et l'Aube vers 17h. L'Île-de-France sera touchée vers 19h. Et puis 21h, ça concernera l'Oise, la Somme et l'Aisne. Le tout avec des températures qui vont baisser après le passage des pluies. 14 degrés à Nantes cet après-midi. Midi 17 à Marseille, à Nice, 18 à Lyon, 21 à Paris, jusqu'à 26 quand même à Strasbourg.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
8h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Terminée l'union sacrée contre la réforme des retraites. Retour à un 1er mai plus classique partout en France. Et vous l'entendrez, les syndicats peinent à mobiliser cette année. L'État a touché le pactole l'an dernier. Grâce au radar, 2 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Et puis le PSG face au mur jaune du Borussia Dortmund ce soir après le match nul de partout entre le Bayern et le Real en demi-finale de Ligue des Champions.
Et c'est donc un 1er mai beaucoup plus calme qui s'annonce.
On attend au moins 270 rassemblements partout en France, jusqu'à 150 000 manifestants, mais on sera en effet loin de la mobilisation historique de l'an dernier. Et pour cause, la réforme des retraites est passée contre l'avis des Français qui sont descendus dans la rue. Résultat, Pierre Bourgès, aujourd'hui, il n'y croit plus, même dans les villes qui s'étaient fortement mobilisées, comme à Angoulême.
Pour le 1er mai 2023, à Angoulême, près de 8000 personnes se mobilisaient contre la réforme des retraites. En 2024, ce sera sûrement moins. Magali avait pris l'habitude de manifester, mais elle n'y voit plus l'intérêt.
C'est une lassitude, ça sert à rien, puisqu'ils ne nous écoutent pas. En fait, on n'obtient rien du tout, donc voilà.
Un constat partagé par Sylvie Lavaux, militante Force ouvrière d'Angoulême.
Les gens, en fait, je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont été, entre guillemets, un peu blasés. Ils partent plus dans leurs problèmes personnels, plutôt que de continuer à s'investir et à continuer le combat.
Elle distribue des tracts ce matin au marché d'Angoulême. C'est le mode d'action de Force ouvrière pour ce 1er mai. Les gens ne prendront pas le temps de se mobiliser davantage cette année, craint Henri Lalouette, secrétaire général FO Charente.
Pour l'instant, je dirais que les gens sont plutôt dans une forme de fatigue. On souhaiterait que ça se passe autrement, il faut être très clair. On souhaiterait voir des dizaines, voire des centaines de milliers de gens dans la rue. Le fait d'aller au marché distribuer effectivement ces tracts nous permet de créer cette rencontre dans un contexte différent où les gens vont être peut-être plus détendu.
Discuter notamment de l'augmentation des salaires, c'est la priorité des syndicats pour ce 1er mai.
Et à Perpignan, les syndicats appellent à la mobilisation contre le traditionnel rassemblement du RN, du Rassemblement National. Eux veulent leur part du gâteau après les cheminots de la SNCF et les contrôleurs aériens. C'est au tour des éboueurs de Paris d'agiter la menace d'une grève pendant les Jeux Olympiques. C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. La CGT a déposé 2 préavis qui couvrent toute la durée des Jeux. Ils réclament notamment des primes, 1900 euros pour tous les agents mobilisés. 8h34 sur RMC, 2 milliards d'euros. Voilà ce qu'ont rapporté les radars l'an dernier, des recettes en augmentation de 7% par rapport à 2022 selon la Cour des comptes, grâce notamment aux radars automatiques qui flashent sans relâche, comme à Épinay-sur-Seine en région parisienne où s'est rendu Romain Poiseau, pied sur le frein pour RMC.
C'est ce que Sébastien appelle un radar sournois.
Il est planqué derrière un panneau publicitaire. Il est là de temps en temps et après il le bouge, il le met sur une autre rue derrière et il revient. Quand tu prends l'habitude qu'il n'est plus là, tu te fais flasher.
Et ce radar automatique qui flashe à 50 km/h sur une 4 voies a déjà verbalisé Sébastien 2 fois cette année. Le soir, c'est un vrai festival.
C'est incroyable. Quand on mange, il y a un restaurant qui est un peu plus haut. Quand on se met au restaurant et qu'on mange là-haut, on voit les flashs toute la soirée. Ouais, c'est un peu boîte de nuit ici. Ouais. C'est marrant. Pour celui qui est assis à table, pas celui qui est dans la voiture. C'est pour faire de l'argent, clairement.
Et l'année dernière, les radars automatiques ont rapporté près de 750 millions d'euros à l'État, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente. Mais où va cet argent? La réponse d'Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners.
Une petite moitié va vers des mesures pour améliorer la sécurité routière. Il y a un tiers de ces recettes qui va plutôt vers l'investissement dans de nouvelles infrastructures de transport en France. Et puis ce qui reste, c'est consacré à destination des collectivités locales pour abonder leur budget.
10% des recettes liées aux amendes servent aussi à rembourser la dette de l'État.
Et l'État qui a répondu à l'appel des élus et des automobilistes franciliens privés d'une partie de l'autoroute A13 depuis plus de 10 jours. À partir de lundi, ils pourront ne payer que la moitié du péage de l'A14, l'autoroute la plus chère de France, mais qu'à condition de covoiturer et de l'emprunter aux heures de pointe. Il est 8h35, la police est entrée dans la célèbre université de Columbia à New York cette nuit pour déloger les manifestants pro-palestiniens qui bloquent le campus depuis maintenant 2 semaines. Certains s'étaient même barricadés. Les forces de l'ordre ont donc dû intervenir, Romain Houg.
C'est à la nuit tombée que des dizaines d'hommes de la police new-yorkaise, tout en noir, casqués, parfois cagoulés, investissent le campus. Les forces de l'ordre encerclent d'abord le bâtiment occupé.
Reculez, reculez!
On y va les gars, on évacue. Avant d'y pénétrer jusque par une fenêtre du premier étage à l'aide d'un véhicule muni d'une échelle et d'en ressortir menant une cinquantaine de manifestants menottés vers un bus affrété spécialement pour l'opération. Depuis la nuit dernière, des dizaines de manifestants s'étaient barricadés dans le bâtiment scandant des slogans pro-palestiniens. Une occupation initiée par des agitateurs extérieurs, dit le maire de New York. Affirmation démentie par le leader du mouvement. Et pour éviter de nouveaux débordements, la présidente de Columbia a demandé à la police de New York de maintenir sa présence au moins jusqu'au 17 mai prochain.
8h36, c'est le grand soir pour le PSG. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund à 21h pour tenter de décrocher leur ticket pour la finale de Ligue des Champions. Et ils vont être reçus avec la manière par 80 000 supporters et vont devoir rester concentrés face au mythique mur jaune, le plus grand virage d'Europe, Valentin Jamin.
25 000 supporters debout et déchaînés, habillés en jaune et noir. Dans une tribune de 40 mètres de haut, 100 de large et une inclinaison à 37 degrés, un vrai mur où on n'arrête jamais de chanter.
You have black and yellow adrenaline.
L'adrénaline jaune et noir, dit Sébastien, abonné.
We call it Gense.
On a des frissons dans tout le corps, c'est dingue, il faut le vivre. C'est un peu étrange à la fin du match car vous êtes fatigué. Mais d'un autre côté, vous êtes surexcité, c'est génial.
It's awesome.
Les abonnements s'y transmettent de génération en génération. Avec ces animations exceptionnelles, le mur jaune est un atout dans les grandes affiches comme lors des 2 dernières qualifications à domicile. La victoire en quart 4-2 contre l'Atlético de Madrid a marqué Alex, supporter.
Contre l'Atlético, ma voix est partie pendant 3 ou 4 jours ensuite. L'atmosphère était incroyable, il y avait de la magie. Des milliers de gens ici rêvent d'y venir.
Dans son stade, Dortmund n'a plus perdu depuis 10 matchs en Ligue des Champions grâce à son public, pense Edin Terzic, l'entraîneur.
C'est une chose de le voir, c'en est une autre de l'entendre. Ça nous apporte beaucoup d'énergie, de confiance. C'est unique. Ils sentent qu'ils doivent nous apporter ce plus.
Et Paris n'a jamais gagné devant ce mur jaune en 3 rencontres.
Et pour l'occasion, soirée spéciale dès 18h sur RMC ce soir et à la télévision. Rendez-vous sur RMC Sport 1. Je vous donne les résultats d'hier, le Bayern Munich et le Real Madrid qui se sont neutralisés de partout. Ça se jouera donc à Madrid mercredi prochain.
Et puis le Quintet, ça se joue à Saint-Cloud à 15h15.
Et voilà, et on a un pronostic pour vous comme tous les jours, celui de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Sadak l'Outsider. C'est le numéro 2, Jojo d'Amour. Non, Jojo Junior.
Ah, mais Jojo d'Amour, pourquoi il y a un Jojo d'Amour
pardon.
On embrasse très fort Jojo, Élise.
La course du Quintet, à suivre en direct sur C'est Découvert.
C'était le journal d'Élise Dangean, 8h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, mon invité, c'est Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. On va revenir sur les derniers préavis de grève déposés par les JO. On a vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est le moment de tout demander à l'État parce que les accords trouvés à la SNCF ou chez les contrôleurs aériens commencent à donner des idées à d'autres. Et puis ce 1er mai, en ordre dispersé, on se retrouve donc dans un instant avec la leader de la CGT. Ça se passe sur RMC et RMC Story. Restez bien sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Sophie Binet.
L'invité du jour.
Bonjour Sophie Binet, vous êtes la secrétaire générale de la CGT en cette journée du 1er mai. On va parler évidemment de la mobilisation. Vous serez à Paris dans le cortège République-Nation, mais il y aura des cortèges un peu partout en France. Mais d'abord, je voudrais parler du combat syndical de ces derniers temps. Après les contrôleurs de la SNCF, après les contrôleurs aériens, on se dit que c'est le moment de demander à l'État, puisque l'État a l'air de céder. À qui le tour ?
Eh bien, on se mobilise partout, dans toutes les entreprises, pour obtenir des augmentations de salaire, parce que ce qu'on constate, c'est que nos salaires s'effondrent face à l'inflation, et surtout que malheureusement, ils ne suivent pas la même courbe que les salaires des patrons ou les dividendes des actionnaires. Note aujourd'hui, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, c'est l'occasion de dire que la société ne tourne que grâce à notre travail et qu'il doit être reconnu et rémunéré. Donc on va se mobiliser pour les salaires, et puis on va aussi se mobiliser pour dénoncer la casse sociale conduite par le gouvernement et le patronat qui veut notamment s'attaquer à l'assurance chômage.
On va y revenir sur l'assurance chômage, mais quand vous dites oui, on va mener tous ces combats, évidemment la perspective des JO vous donne une arme supplémentaire. On sent bien que le chantage à la grève, en quelque sorte, qu'a fait la SNCF, on pense notamment aux contrôleurs de la SNCF qui ont obtenu carrément une forme de remise en cause de la réforme des retraites. Vous le vivez comme ça ? C'est-à-dire, je précise le contenu de l'accord qui a été trouvé. Les contrôleurs de la SNCF vont pouvoir partir 18 mois avant l'âge légal en touchant 75% du salaire.
C'est des avancées qui vont bénéficier à l'ensemble des cheminots et cheminotes, pas seulement les contrôleurs, et qui ont été arrachées, notamment par la CGT. C'est une très belle victoire. Je suis vraiment très fière de ça. Parce que, effectivement, cette réforme des retraites, on a toujours dit que la lutte ne s'arrêtait pas et qu'elle continuait. Et donc, nous nous battons dans tous les secteurs professionnels pour pouvoir avoir des départs anticipés qui reconnaissent la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Et donc, il faut que ça fasse tache d'huile et que ça soit étendu à l'ensemble des secteurs professionnels, ces départs anticipés.
Et élargi à l'ensemble des secteurs professionnels, d'abord sur le fond, on est bien d'accord que, au fond, c'est une forme d'annulation de l'impact de la réforme des retraites.
Alors malheureusement, ça ne suffit pas à l'annuler totalement, mais ça en limite l'impact, oui, effectivement.
C'est une forme de revanche quand même.
Ah bah, bien sûr, nous n'avons pas caché que nous allions continuer le combat, et donc on le prouve
c'est une autre
aujourd'hui
manière
avec
de combattre.
Cette victoire, bien sûr. Et c'est ce qu'il faut étendre partout, et la leçon à en tirer, c'est que pourquoi est-ce qu'à la SNCF on a gagné ? Parce que les cheminots et les cheminotes sont très largement syndiqués. Il faut faire ça partout. Le 1er mai, c'est une très belle journée pour se syndiquer. Rendez-vous
alors ça,
sur
CGT.fr. C'est le moment de faire la pub pour votre mobilisation, mais c'est là que je ne vais pas être complètement d'accord avec vous, parce que la réalité, c'est que justement, le mouvement des contrôleurs de la SNCF, il vous a quand même largement échappé. La vérité, c'est que ça s'est surtout parti sur
Facebook. Non, mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Cette avancée, cet accord, il n'est pas lié à la mobilisation des contrôleurs. Il est lié à la mobilisation de la CGT et de l'ensemble des cheminots et cheminotes, parce que ça n'est pas une avancée catégorielle, ça profite à tous
mais
les cheminots.
Mais pourquoi
les contrôleurs revendiquaient des effectifs supplémentaires et du salaire supplémentaire.
C'est parce qu'ils ont créé ce collectif,
Sophie Binet. Pas du tout, je ne suis. Mais alors, absolument pas d'accord, vous vous trompez totalement sur la situation à la SNCF. Il y a deux choses différentes. Il y a la mobilisation des contrôleurs, dans laquelle la CGT était également impliquée et pour laquelle
mais
nous avons obtenu des augmentations de salaire et des augmentations d'effectifs. Et ensuite, il y a la question des départs anticipés, qui est une lutte historique de la CGT, avec des avancées qui sont pour l'ensemble des cheminots et cheminotes et pas spécialement pour les contrôleurs.
Vous ne considérez pas que le fait que les contrôleurs, dans un sens, vous aient assez largement échappé, mais et cette nouvelle arme face à la direction qui est est ce collectif justement plus difficile à contrer, qui est un collectif qui s'était regroupé sur Facebook. Tout cela n'est pas une nouvelle arme face à une direction.
Pas du tout, parce qu'il n'aurait pas pu se mobiliser si les syndicats n'étaient pas de la partie, tout simplement parce que c'est nous qui pouvons déposer des préavis de grève et qu'on l'a fait. Et donc la CGT était partie prenante de cette mobilisation. Et en l'occurrence,
ils ont besoin de vous.
Les départs anticipés n'ont pas été gagnés par les contrôleurs, ils ont été gagnés par la CGT et l'ensemble des cheminots et cheminotes.
La CGT qui aujourd'hui est aux côtés des éboueurs, Sophie Binet, la CGT éboueurs de Paris, a déposé deux préavis de grève, l'un qui court du 14 au 24 mai et puis un autre pour toute la durée des JO. Ils réclament 1900 euros de primes pendant la durée des JO, mais ils réclament également une augmentation de 400 euros par mois de tous les salaires pour tous, toute l'année. Est-ce que ce combat-là, vous pensez le gagner ?
Ah bah j'espère, on va mettre le paquet pour le gagner. C'est des métiers qui sont pénibles, avec des horaires décalés, qui sont mal payés et qui doivent être reconnus. Pendant le Covid, on applaudissait sur les balcons les premiers de cordée qui étaient des premiers de corvée. Aujourd'hui, on n'a toujours pas reconnu leur travail, donc c'est très important d'augmenter les salaires de ces métiers-là, oui.
La CGT, d'ailleurs, des éboueurs à Marseille, s'était aussi mobilisée début avril, ça avait marché ?
Écoutez, oui, je pense.
C'est quand même un chantage aussi aux poubelles dans les rues de Paris pendant les JO.
Ben, en fait, ça s'appelle le droit de grève, c'est un droit fondamental. Ça montre que sans notre travail, la société ne peut pas tourner. Donc oui, on a le droit de faire grève aujourd'hui dans ce pays, même si les libertés syndicales sont gravement remises en cause, ce qui m'inquiète énormément.
Gravement remises en cause, pourquoi ?
Parce que là, on franchit un cap très inquiétant en matière de remise en cause des libertés. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles poursuites contre des militants et des militantes de la CGT. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui qui sont poursuivis devant les tribunaux, avec même le secrétaire général de la CGT dans le Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis. C'est gravissime, c'est inédit. J'alerte parce que ce sont nos libertés qui sont aujourd'hui remises en cause, alors que c'est un principe pour notre démocratie. Et puis, les libertés syndicales, c'est aussi nos droits. Le 1er mai, c'est l'occasion de se rappeler que tous les droits dont on bénéficie aujourd'hui...
Mais il n'a pas été condamné pour apologie du terrorisme ?
Oui, tout à fait. Et c'est aujourd'hui, c'est cette apologie du terrorisme...
Le combat syndical, si ?
Ah si, totalement, puisque c'est dans le cadre d'un tract qui a été fait sur le conflit palestinien, et donc pour appeler à la paix à Gaza, c'est les valeurs internationalistes de la CGT, de se mobiliser pour la paix partout dans le monde, c'est aussi pour ça qu'on sera mobilisé aujourd'hui. Et donc c'est une phrase dans un tract qui vale
c'était
aujourd'hui...
C'était quoi cette phrase ?
Cette phrase, c'était « la violence appelle la violence ». Et malheureusement, effectivement, force est de constater...
Sophie Binet, cette phrase « la violence appelle la violence », elle justifie le 7 octobre ?
Non, pas du tout, puisque la phrase suivante du tract, c'était « la CGT pleure toutes les victimes », que la CGT a été très claire sur la condamnation des attaques du 7 octobre que nous qualifions de terroristes sans aucun problème, et que nous avons immédiatement appelé à un cessez-le-feu à Gaza. Mais ce que je veux dire ici très fermement, c'est que la justice n'est pas lieu des débats politiques. On peut avoir des débats politiques sur telle ou telle position, mais ça n'est pas pour ça qu'il faut faire des poursuites et encore moins condamner à 1 an de prison avec sursis.
Donc vous estimez c'est qu'on a utilisé
grave.
La question de l'apologie du terrorisme pour condamner en réalité un militant CGT ?
Tout à fait, et c'est ce qui est en train de se passer pour des centaines de militants, puisqu'il y a plus de 300 militants et militantes qui sont actuellement poursuivis pour ce motif, et ça avait commencé avant, contre les militants écolos qui étaient qualifiés d'éco-terroristes, et puis contre des mobilisations sociales et syndicales, puisque nous avons plus de 1000 militantes et militants poursuivis dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Vous soutenez les blocus des universités sur ce même sujet, la question palestinienne ?
Ben, je pense que les étudiants ont raison de se mobiliser pour appeler à la paix à Gaza, parce que le massacre doit cesser et qu'il est inacceptable aujourd'hui. Mais ce que je veux dire sur la question des libertés, c'est que le 1er mai, c'est l'occasion de se rappeler que tous les droits dont on bénéficie aujourd'hui ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés par les luttes sociales et par les syndicats. Quand on remet en cause les libertés syndicales, de fait, c'est nos droits qu'on attaque parce qu'on ne permet plus aux salariés de se mobiliser collectivement pour défendre leurs droits et en gagner de nouveaux.
Vous serez à Paris, dans le cortège République, Nation, cet après-midi. Il y aura des cortèges un peu partout en France. La note du ministère de l'Intérieur montre qu'ils anticipent entre 120 000 et 150 000 participants, qu'ils anticipent aussi un certain nombre de violences. Il redoute 400 à 800 black blocs dans les cortèges parisiens. Est-ce que vous redoutez aussi ces violences ?
Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des problèmes, c'est toujours extrêmement limité sur une ou deux manifestations en France et dans des endroits très précis. Les mobilisations du 1er mai sont très festives et très familiales. Après, malheureusement, il semble que l'extrême droite ait envie de venir perturber la journée et de gâcher la fête. On ne se laissera pas faire et on ne leur laissera pas la rue.
Sophie Binet, une question sur la GPA. Est-ce que vous estimez, comme une partie de la gauche, qu'il s'agit d'une forme d'ultra-libéralisme ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que c'est un progrès sociétal ?
La CGT estime que le corps des femmes n'est pas à vendre et qu'il ne doit pas être marchandisé pour les transformer en fabrication de bébés, oui, ça c'est sûr.
Donc vous êtes contre la GPA ou est-ce que vous distinguez, comme le fait par exemple Raphaël Glucksmann, GPA, ce qu'il appelle éthique, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y aurait pas de marchandisation, ou est-ce que ça vous paraît une forme d'hypocrisie, comme le dit notre porte-parole du Parti Socialiste?
Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, dans les faits, on voit qu'il y a peut-être une toute petite partie émergée de l'iceberg qui dissimule un commerce sur le corps des femmes, puisque très majoritairement, la GPA, ça se paye très cher. C'est des femmes qui se font payer pour produire des enfants, sauf qu'un enfant, ça ne se produit pas. Tout ne doit pas être marchandisé et certainement pas notre corps. C'est la raison pour laquelle la CGT est abolitionniste en matière de prostitution et opposé à la GPA, puisque nous pensons que nos corps ne sont pas à vendre.
Merci beaucoup, Sophie Binet, d'être venue ce matin. Je rappelle que vous serez donc cet après-midi dans les rues de Paris, qu'il y aura des cortèges partout en France. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Merci à vous. Il est 8h51 sur RMC.
Et il y a Alain qui est là. C'est sympa pour une fois de se voir, Alain.
Mais bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux d'être avec vous. Tiens, Madame Binet, vous auriez fait quoi si vous aviez gagné les 166 millions d'euros de l'euro million ?
Je les aurais redistribués parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec de telles sommes d'argent. Ça n'a aucun sens.
Vous auriez tout redistribué ?
Oui,
rien gardé pour vous ? Même pas un petit million ?
Un petit million, c'est déjà énorme, en fait. C'est ça qu'il faut quand même rappeler.
Bonne journée, bon 1er mai, Madame Binet. Alors, on va évoquer 166 millions d'euros, bien sûr, avec nos GPA.
Qui ont été gagnés hier.
Comment ?
Qui ont été gagnés hier.
En France.
Mmh.
Oui, c'est ça, c'est pour ça, peut-être, je me disais, on ne sait jamais si c'est Madame Binet, mais...
En tout cas, c'est pas vous, visiblement.
Elle nous l'aurait annoncé.
Bah, ça aurait été une bonne nouvelle pour beaucoup de gens, parce que ça aurait été redistribué.
Nous allons revenir sur ce que dit le père de Mathis, assassiné à Châteauroux. Il dit, on va faire des choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil, mais on ne veut pas de récupération politique. Faites attention à ce que vous dites de tous bords, gauche et droite. Voilà ce que dit le père de Mathis. Mais l'assassinat de son fils pose quand même des questions. Est-ce que le fait que les politiques réagissent, c'est de la récupération ? Oui ou non ? Venez en débattre avec les GG. Aujourd'hui, nous serons avec le restaurateur Stéphane Manigold, avec Joël Dagosséry, qui est coach de vie. Nous serons aussi avec Antoine Diers, qui est consultant auprès des entreprises. Voilà le premier sujet de discussion des Grandes Gueules.
Et moi, je vous dis à demain.